Avant de commencer l'épisode, je dois vous parler d'un rendez-vous immanquable dans l'écosystème SaaS. Le 25 et le 26 septembre prochain, en plein cœur de Paris à Station F, c'est le retour de B2B Rocks, l'événement incontournable du SaaS B2B. Et je vais vous donner trois bonnes raisons de vous y rendre. La première, c'est que vous allez rencontrer une communauté mondiale qui regroupe plus de 3000 participants de l'écosystème SaaS, avec des fondateurs, des C-level, mais aussi des VC. La deuxième, c'est qu'ils ont réuni des speakers de classe mondiale venant des plus belles startups comme Asana, Notion, Figma, Aircall, Paddle ou encore YouSign pour parler d'intelligence artificielle, de marketing, de génération de revenus, mais aussi de bootstrapping. La troisième, c'est que vous allez pouvoir connecter avec vos pairs et créer des relations durables grâce à l'atmosphère unique de B2B Rocks. Mais j'ai surtout une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vous ai négocié moins 50% sur le prix des billets. Alors pour en profiter, c'est très simple, rendez-vous sur le site de B2B Rocks, b2brocks.co et utilisez le code SASCLUB50, tout en majuscule et tout attaché, pour bénéficier de moins 50% sur l'achat de vos billets. Bref, c'est une super affaire pour un super événement. Et une dernière info avant de vous laisser avec l'épisode du jour, plus vous attendez, plus les prix des places augmentent, alors ne tardez pas, rendez-vous sur le site b2brocks.co pour bénéficier de moins 50% sur vos billets. Bon épisode. Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. Vous apportez sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcasts. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute! Et bienvenue au club. C'est parti. Aujourd'hui, je reçois Antoine, qui est responsable marketing et commercial chez Crisp. Bienvenue à nouveau dans le podcast, Antoine.
Merci, Eric.
Donc, on a déjà enregistré un épisode ensemble. Je vous mettrai le lien dans la description. On avait aussi enregistré avec Baptiste. Je le mettrai également, donc Baptiste, le cofondateur aussi de Crisp. Aujourd'hui, on va parler de sales, contrairement au sujet précédent, parce que c'est aussi une de tes casquettes chez Crisp, parce que les équipes sont assez concentrées.
Ouais, tout à fait.
Donc, en arrivant chez Crisp, toi, t'as tout reconstruit, on va dire. Est-ce que peut-être avant de parler de ça, tu peux représenter Crisp rapidement?
Ouais, tout à fait. Crisp, c'est un logiciel de gestion du service client multicanal. On centralise les canaux de communication des entreprises, on fédère les équipes et puis on se synchronise avec les sources de données pour faire en sorte que chaque conversation avec vos clients ou vos prospects soit unique. À ça, on apporte tout un tas d'autres fonctionnalités qui permettent du coup de rendre les clients autonomes, de faire gagner du temps aux équipes aussi en automatisant les tâches répétitives et en facilitant aussi les intégrations avec les autres outils de l'écosystème SI des entreprises.
Ok, super, voilà. Clair pour le pitch. Donc toi, quand t'es arrivé chez Crisp à l'époque, bah c'était Baptiste, hein, qui faisait les démos.
Ouais, c'était assez erratique, on va dire qu'il prenait ça, tu vois. C'était du, entre guillemets, du tout venant, quoi. Il y a quelqu'un qui demandait une démo sur le chat et Baptiste dit OK, pas de souci, on peut y aller maintenant si tu veux, quoi. Et puis moi je suis arrivé, voilà, pour essayer de déjà de décharger Baptiste de ces choses là et puis de commencer à développer un peu l'aspect démo.
Ouais, donc c'est ça qui t'a poussé à structurer le process, c'était de donner un peu plus de temps afin de décharger Baptiste et toi aussi derrière de mieux t'organiser pour avoir quelque chose de scalable par rapport aussi à tes autres casquettes.
Ouais, bien sûr. En fait, tu vois, au tout début, c'était deux demi-journées par semaine, quoi. C'était mardi matin, jeudi matin. Et donc c'était bien parce que bah, ça me laissait quand même le temps de faire plein d'autres choses, quoi. Et donc j'ai commencé comme ça avec tu vois un fichier Excel comme comme CRM, quoi. Et ça a très bien marché pendant pendant quelques mois. Mais l'idée de base, ouais, c'était d'essayer bah tu vois de parce que quand tu fais du SaaS, alors j'ai entendu parler là de d'autres entreprises, tu vois, pour citer JB de Evaboot, qui lui fait aucune démo. Parce que en fait, il part du constat que si tu as besoin d'une démo pour utiliser mon logiciel, c'est qu'en fait, tu fais pas partie de mon persona. Et du coup, nous sur Crisp, on a quand même un produit qui est assez complexe avec un acheteur type. J'ai cherché le mot en français, pardon, parce que je l'avais en anglais, mais je voulais pas l'utiliser. Avec un acheteur type qui, tu vois, a quand même beaucoup d'enjeux à gérer. La communication d'entreprise, c'est un sujet important. C'est sensible. Donc, il faut s'assurer que les gens qui vont se mettre à la gérer sont des gens sérieux, que, tu vois, il y a toute une partie aussi sécurité qui est importante. Et puis aussi t'as tout l'aspect UX et UI qui est important parce qu'en fait si tes équipes de support demain elles se retrouvent à avoir un logiciel qui leur fait perdre du temps plus qu'elles n'en fait gagner parce qu'en fait il est pas facile à prendre en main, que il est buggé, tu vois, c'est pour ça que la démo reste quand même une étape importante de notre cycle de vente, même si c'est pas du tout la majorité de nos créations de comptes. Parce qu'on a quand même poussé et Crisp a été créé historiquement pour un modèle, tu vois, qu'on appelle le product-led growth. Je suis désolé pour les auditeurs, mais il n'y a pas de mot français équivalent.
Ouais.
et donc on pousse beaucoup les gens à l'autonomie et à faire en sorte qu'ils aient pas besoin de nous pour créer le compte et tout ça. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui encore, hein, dans beaucoup de démos, les gens me demandent, mais Antoine, si on a envie de se lancer, là, quand est-ce qu'on peut se lancer? Et en fait, ils adorent que je leur dise qu'ils peuvent se lancer dans la minute à venir, quoi.
Ouais, effectivement, ça s'installe très rapidement. Il y a aussi l'application mobile, donc tu étais rapidement autonome là-dessus.
Ouais, exactement, ouais.
Et du coup, bah, c'est. Donc, tu as pris la décision, on va dire, de structurer un peu ça.
Ouais.
C'est quoi un peu, bah, tu vois, pareil, les différentes étapes. Comment est-ce que tu as mis en place ton final? Il me semble que tu l'as fait en deux temps, c'est ça?
Ouais, ouais. En fait, bah, tu vois, c'est tout bête, mais en fait, il n'y avait pas de bouton demander une démo sur le site. Donc, premier truc que j'ai fait avec Baptiste, c'est que j'ai dit, bah, mec, on va mettre un bouton request démo qu'on va traduire dans les X langues du site et on va voir ce qui se passe, quoi. Et en effet, tu vois, ça a bien marché. Alors, on l'a pas mis dans le header parce qu'en fait, on voulait pas non plus que n'importe qui clique sur ce bouton-là.
Le header, donc principalement le haut de la page.
Le haut du site, exactement. Ouais. Ce qui est quand même assez courant aujourd'hui dans le SaaS. On veut que les gens qui demandent une démo soient des gens qui aient quand même parcouru le site, tu vois, et qui soient arrivés en bas d'une page parce que c'est là qu'il se trouve le bouton d'appel à l'action. Donc, on pourrait embaucher une armée d'accounts exécutives et aujourd'hui hein et leur faire des démos à des gens qui sont pas super qualifiés parce qu'en fait ils ont juste vu le bouton demander une démo et ils ont pas du tout pris le temps de regarder ce que faisait le logiciel ou quoi que ce soit. Même si ça m'arrive d'avoir des gens comme ça en démo, c'est quand même très rare aujourd'hui. Et ça c'est le truc que tu veux pas avoir quand tu fais une démo, en fait, une personne pas qualifiée face à toi, ça te fait perdre du temps. Donc, enfin, tu vois, il y a rien de pire d'arriver dans une démo et qu'en fait, te rendre compte que la personne en face de toi, elle a aucune idée de ce que tu fais comme.
Ouais, c'est ça. Métier. Elle a pris une démo parce qu'elle avait simplement la flemme de lire et donc toi, en fait, avec ce petit hack, on va dire, tu t'assures que la personne, en fait, se segmente par elle-même. C'est-à-dire,
oui,
que tu sais qu'elle a une intention, tu sais qu'elle a lu, tu sais qu'elle a juste besoin d'avoir quelques éclaircissements potentiellement pour convertir derrière.
Oui, tout à fait. Donc ça a été le premier truc qu'on a mis en place. Et puis en fait on a mis un chatbot. Donc on s'est dit, quitte à ce que les gens demandent une démo, et ben ils vont demander la démo au travers du logiciel. Comme ça en plus on mettait en avant les fonctionnalités du produit. Et donc On a sur Crisp la possibilité, tu vois, de générer des interactions personnalisées, fonction d'interaction sur un site web avec du JavaScript. C'est vraiment assez basique, ça se fait avec un Google Tag Manager ou un peu de jus de cerveau et de connaissances en JavaScript, mais rien de très méchant. Et donc aujourd'hui on déclenche un scénario de chatbot au clic sur un bouton qui du coup qualifie la personne de façon automatisée en lui demandant un nom, un prénom, une temporalité d'installation. Mm-hmm. Parce qu'en fait, comme moi je suis tout seul, je préfère privilégier les gens qui aujourd'hui veulent installer rapidement la solution plutôt que ceux qui veulent l'installer dans 3 mois ou dans 1 an.
Alors qu'en plus de ça, c'est dans 3 mois ou dans 1 an, c'est potentiellement juste un projet. Ils sont en train de, ils sont au début du process, en train de benchmarker. Ils sont pas forcément, c'est pas forcément hyper rentable pour toi par rapport à tes moyens.
Voilà. Tout à fait. Ton temps. Et donc là, récemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un webinar pour ces gens-là. Pour ceux qui sont à 3 et à 1 an, à 3 mois et à 1 an, je commence par leur dire, bah, OK, voilà un webinar, inscris-toi. Et ça leur permet d'avoir une première ébauche du logiciel. Mmh. Et moi, ça me permet de dégager du temps pour tous les autres qui ont plus, tu vois, un degré d'urgence, parce que je pense que c'est le plus important.
Donc ça, t'as cette première partie sur le chat où tu commences la segmentation.
Tout à fait, exactement. Et donc on a pareil, tu vois, dans le processus de qualification, je lui demande à la personne qui demande une démo quel est le plan qui t'intéresse. Donc il y a 4 solutions, basique, pro, unlimited ou alors je ne sais pas. Et donc si la personne choisit basique ou pro ou je ne sais pas, je lui dis bah pour basique ou pro, va voir enfin inscris-toi par toi-même en fait, parce que moi pour 25€ par mois, je vais pas faire une démo poteau. et si tu sais pas, bah en fait va voir la page pricing.
Mm. OK.
Et ça, encore une fois, tu vois, ça fait gagner du temps. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu perds des leads.
Ouais, c'est ce fait, que j'allais dire. Si, comment c'est perçu en face, c'est quoi un peu
vois,
le...
Ouais, mais en fait, quand tu vois dans un magasin, t'attends des conseils, tu vois. Mm. Et bah, là, nous, c'est pareil, en fait. Enfin, moi, j'irai jamais à boulanger sans savoir ce que j'ai envie d'y faire, quoi. Mm. Tu vois? Enfin, c'est ma vision des choses, hein. Mm. Mais en soi, l'acheteur B2B, il doit avoir la même logique, quoi. Si tu demandes une démo d'un produit, c'est qu'en fait, tu sais pourquoi tu la demandes. Mmh. Et tu sais ce que t'attends, fonctionnellement parlant aussi, derrière. Donc, tu vois, nous, on n'est pas... Enfin, après, c'est ce luxe qu'on a aussi chez Crisp, tu vois, c'est qu'on n'a pas d'investisseurs et du coup, on est, enfin, tu vois, on n'a pas des business plans à tenir avec des nombres de leads par mois qui sont définis en amont et qui sont bien souvent décorrélés de toute réalité, quoi.
Ouais, pas toujours de très bonne qualité.
Non. Donc voilà, eux, enfin ces entreprises-là, elles font des très belles choses, mais parfois elles sont objectivées sur des choses qui n'ont aucun sens, et du coup ça dénature aussi le travail de l'équipe marketing ou le travail de l'équipe commerciale, parce qu'en fait elles vont être objectivées sur, tu vois, nombre de démos réalisées ou sur, tu vois, nombre de leads envoyés à l'équipe commerciale. Mm. Et en vrai, à mon sens, c'est la pire des choses, parce que du coup ça dénature le travail. Toi, tu vas avoir un objectif en tête, ça va être ça, peu importe la qualité que tu vas avoir de ces leads ou de ces démos que tu vas réaliser. Mm. L'objectif, c'est d'atteindre son objectif. Donc ça, ça a été un premier travail. Alors, ça a été très itératif, hein, parce que le chatbot au début n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Parce que maintenant, on a, comme du coup, la demande a vachement évolué et a vachement explosé. Maintenant, je redirige aussi des demandes de démos sur le marché espagnol et le marché brésilien à une personne qui travaille avec nous et qui est basée au Mexique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens de ces pays-là parlent peu ou pas bien anglais. Mm-hmm. Et en fait, c'était beaucoup mieux de leur proposer quelqu'un qui leur fait des démos en espagnol ou en brésilien.
Ok, ouais.
Et donc le scénario de chatbot a évolué. À la fin du scénario de chatbot, ce qu'on fait, c'est qu'on déclenche un mail qui contient un lien vers mon calendrier.
Ça, c'est pour les personnes hein, qui sont vraiment sur le plan...
Qui veulent installer Crisp d'ici un mois, qui sont intéressés par le plan Unlimited, mm-hmm. qui sont pas déjà clients existants de Crisp. Enfin, tu vois, c'est vraiment quali. Et donc, ceux-là, ils reçoivent un email dans lequel ils ont un lien vers mon Calendly qui leur dit « book un rendez-vous, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, soit en fait quand t'as envie. Mm-hmm. » Bien souvent, en ce moment, c'est des créneaux. Ouais, il y a un délai d'une semaine à deux semaines. Mm-hmm. Même après toutes les segmentations que j'ai faites encore récemment. Et du coup, ça se cale dans mon calendrier automatiquement. C'était poussé dans mon petit fichier Excel pour que je sache un peu à qui j'ai affaire, que je puisse aller voir le site web et tout ça, mm-hmm, en amont du rendez-vous quand même, histoire de pas arriver en gros touriste. Et après, ouais, je suis passé sur Pipedrive quelques mois après, en fait, tout seul d'abord, et puis après avec Pedro qui travaille avec nous, ouais, au Mexique, et qui gère à la fois le support sur les horaires US et qui fait quelques démos aussi chaque mois. Ouais.
Et donc ça, c'est, on va dire, la partie entre guillemets facile, c'est faire la segmentation et gérer le booking. Derrière, ouais, il y a la démo. À quoi ça ressemblait? Comment tu as travaillé ton script? Est-ce que tu peux nous donner un peu de détails dessus?
Franchement, c'était assez rock'n'roll parce que quand j'ai commencé chez Crisp, du coup, Baptiste m'a dit « Ouais, il y a une démo, je devais être chez Crisp depuis, je sais pas, 4 jours, 5 jours, tu vois. Mm-hmm. Ouais, il y a une démo, vas-y, fais-la. » Ok. Donc en fait, je connaissais pas le produit en vrai, hein, tu vois, mm-hmm, enfin, ou très peu de ce que j'en connaissais d'avant. Et en fait, du coup, j'ai construit le script au fur et à mesure, tu vois, parce que j'en parlais encore ce midi. En fait, depuis que je suis chez Crisp, j'ai fait plus de 1500 démos.
Énorme.
Du logiciel, tu vois. Donc, le script, j'ai eu le temps de le retravailler et de l'améliorer. Et celui que j'ai fait au début, enfin, je me revois encore. C'est marrant parce que tu vois, je me rappelle exactement de quelle entreprise c'était et tout ça, parce que c'était vraiment la première fois que je faisais un rendez-vous commercial pour Chris. Et donc c'était freestyle et le mec m'a posé des questions. Et je dis bah ouais, je sais pas, je suis désolé, je vais revenir vers vous quoi. Et je pense que ça c'est une preuve aussi d'intelligence, tu vois, de savoir dire je sais pas, je vais me renseigner. Et ça m'arrive encore aujourd'hui honnêtement. Et des fois j'ai des questions, je me dis oh, franchement j'en ai aucune idée. Je vous envoie la réponse après le rendez-vous. Et donc ce script, il a évolué, ouais, avec le produit aussi, parce qu'en fait Crisp ça continue d'évoluer constamment. Et donc aujourd'hui j'ai un script qui est pas rédigé mot pour mot, parce que c'est pas la vision que j'ai d'une relation commerciale. Moi ce que j'aime, c'est apporter de la valeur aux gens, c'est pas leur vendre un logiciel. Et ça m'arrive régulièrement de dire à une personne que j'ai en démo, mais en fait, je pense pas être la bonne solution pour vous. Tu vois? Et je préfère être honnête avec les gens et leur dire, allez plutôt chez ce concurrent-là ou chez ce concurrent-là. Parce qu'en fait, ils vont mieux répondre à vos attentes que de vouloir travailler avec nous. Et en fait, d'être déçu et pas content au bout du compte. Donc on a trois étapes. Moi, tu vois, les trois questions que je pose en début de rendez-vous, c'est quels sont les canaux de communication que vous utilisez pour échanger avec vos clients, qu'est-ce que vous recherchez fonctionnellement parlant, et c'est quoi les objectifs. Et en vrai, à partir de là, t'as quand même suffisamment d'infos pour pouvoir dérouler une démo qui soit assez proche de ce qu'attendent les gens en termes de résultats.
Ouais, donc au final, oui, tu personnalises en fonction de ces trois réponses.
Ouais.
Et généralement, ça dure combien de temps de ton côté?
Moi, je book des créneaux de 30 minutes. Mm-hmm. J'essaye de faire en sorte que ça tienne en 30 minutes. La réalité, c'est que c'est plutôt 35 ou 40.
Ok. Et est-ce que tu as d'autres, on va dire, tips là-dessus, en tout cas peut-être des choses dont tu as pris conscience à force de répétition, parce que 1500 démos, tu as peut-être repéré un petit peu des patterns sur comment les gens réagissent à ce que tu dis, etc. Enfin, est-ce que tu as des apprentissages là-dessus à nous partager?
Ouais, t'as des patterns déjà culturels en fonction des pays. Ça c'est des choses aussi que tu découvres, tu vois. Moi j'avais jamais vraiment fait de vente à l'international avant d'arriver chez Crisp. Mm-hmm. Et en fait, tu vois, typiquement l'acheteur aux US, pour lui tout est fabuleux quoi. Mm. il te dit, ah, man, awesome, awesome. Puis à la fin, il te dit, ah, je choisis un autre logiciel. Donc, tu dis, bon, bah, ok. Et puis, au bout d'un moment, tu commences à finir par comprendre que c'est pas juste un gars, c'est qu'en fait, ils ont tous cette approche-là du business en disant, ce que tu fais, c'est génial, mec, j'adore, continue et tout, mais en fait, je suis pas bossé avec toi. Ok. Très bien. Par exemple, en Inde, eux, ils vont être très forts pour te ghoster post-démo. C'est franchement, je rigolais là-dessus. Je pensais à ça cette semaine. Je me disais, ironiquement, je disais, ça se trouve, le ghosting est enseigné à l'école en Inde, quoi. Tu vois, tellement, ils te laissent vraiment désespérément.
Sans réponse.
Sans aucune nouvelle, tu vois. Et en fait, c'est culturel. Et je pense que c'est des gens qui sont extrêmement sollicités dans leur vie de tous les jours, et en fait ils ont juste pas le temps de te répondre. Et c'est pas du tout, tu vois, un sentiment négatif ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait culturellement ils ont pour habitude d'être sursollicités, et que du coup il faut peut-être avoir justement des gens qui les sursollicitent aussi pour qu'ils puissent avoir une réponse. Mais moi j'ai pas le temps de faire ça. Donc voilà, je fais des relances, mais au bout d'un moment voilà, j'ai autre chose à faire, quoi.
Ok.
Donc ça c'est des apprentissages que tu as aussi avec le temps. Il y a des gens qui apprécient, et ça c'est vrai pour tous les pays, pouvoir voir le logiciel dès le premier rendez-vous. Parce qu'en fait il y a beaucoup de nos concurrents aujourd'hui qui te font des R1, R2 où en fait ils te montrent pas le soft, tu vois, ils essaient juste de comprendre qui tu es, quels sont tes problèmes, pourquoi tu peux les aider. Ce qui est compréhensible aussi, tu vois. Moi, c'est juste que pour 95€ par mois, je peux pas passer.
Tu peux pas faire de rendez-vous.
Trois rendez-vous en avant-vente, quoi, tu vois.
Ouais, c'est clair.
Déjà, quand j'en fais deux, ça commence à être limite. Donc voilà, c'est des enjeux de retour sur investissement derrière aussi qui sont importants. Mais ouais, ça c'est des choses qui sont intéressantes à prendre en compte aussi quand tu structures, tu vois, ton équipe commerciale. Et après, ouais, c'est je pense que c'est ça le truc qui m'a le plus marqué. Ouais, c'est vraiment les différences de comportement entre les pays, quoi. C'est assez sidérant. Tu sais, on entend toujours parler de ces clichés des Français qui sont en retard,
qui râlent,
des tout un tas de trucs comme ça, en fait. Et à force de fréquenter tout un tas de personnes dans tous les pays du monde, tu te rends compte qu'en final il y a un peu de vrai là-dedans.
Il y a des patterns.
Ouais, clairement.
Tout à l'heure justement t'as mentionné le ghosting côté indien, et tu l'as dit, tu peux pas faire deux trois rendez-vous en avant-vente. Comment est-ce que tu t'y prends pour le follow-up, donc le post-démo, pour savoir si la personne va finalement utiliser le produit. Voilà, comment est-ce que tu suis le post-démo?
Ça c'est le plus douloureux aujourd'hui, c'est manuel, c'est moi qui le fais. Et en fait j'ai deux je fais deux relances mail et une relance LinkedIn, quoi.
Ça, tu le fais en automatisé ou enfin c'est manuel complet?
Non, en fait si je voulais le faire de façon automatisée, il faudrait que je plug des données produits. Parce que tu vois, entre-temps, une personne peut tout à fait se créer un compte sur Crisp, comme elle a pas besoin de moi pour créer un compte. Elle peut tout à fait avoir commencé à être active, avoir installé la chatbox, avoir connecté d'autres canaux de communication. Et donc vouloir faire de l'automation sur ce type d'utilisateur, ça nécessite d'avoir des points de données qui sont bon. Et donc pour ça, on est en train de créer là aujourd'hui un outil de gestion de stockage de données qui va centraliser toutes les sources de données que l'on a actuellement pour permettre ce genre de séquençage automatisé fonction du stade du prospect dans son cycle de vente. Si tu vois, il a juste eu une démo, si il a assisté à un webinar, si il a un peu d'essai. Et en fait, tout ça, ça permet du coup de créer des séquences de messages différents en multicanal, là, en effet. Mais pour le moment, en fait, si je veux bien le faire, en fait, faut que je le fasse à la main. Donc voilà, ça me prend. En fait, Tu vois, aujourd'hui, quand je termine mes démos le mardi ou jeudi, ben en fait, le reste du temps, c'est pour faire de la relance. Ouais.
Et la fréquence, donc tu as dit tu fais 2 relances, c'est ça? Ou 3? Ouais.
2, ouais. 2. Enfin, 2 sur mail et 1 sur LinkedIn. Ouais.
Ok. Et la fréquence derrière, tu vois, c'est toi, tu relances à quelle fréquence?
Toutes les 2 semaines.
Toutes les 2 semaines? Ok.
Ouais. Mais en vrai, il faudrait peut-être que je le fasse plus... J'ai pas testé ces éléments-là de séquençage plus court. Et également aussi, il y a des stratégies, tu vois, de booker un second rendez-vous immédiatement avant la fin du premier rendez-vous pour justement sécuriser et éviter tout ce qui a trait au ghosting et genre de choses, quoi. Mais le souci, c'est que comme je suis tout seul, j'ai pas le temps de faire ça, en fait, parce que tu vois, si je commence à faire du coup des rendez-vous, ça veut dire que du coup les autres gens qui demandaient des mots derrière, ils ont plus de créneau. Enfin, tu vois, c'est le chien qui se mord la queue.
C'est un arbitrage.
Exactement. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Demain, ça changera peut-être sûrement avec l'arrivée d'un directeur commercial qu'on est en train de recruter d'ailleurs et qu'on a recruté d'ailleurs. Et du coup, on va pouvoir améliorer tout ça, ouais.
Et parlons peut-être un petit peu des résultats, parce qu'ils sont quand même excellents. Tu vois, t'as 1500 démos réalisées de ton côté. T'as un process qui est en place. Derrière, t'as eu quand même des beaux résultats en termes de transformation.
Ouais. J'avais plus la stat en tête. Je vais aller regarder l'article, mais ouais, du coup, c'est ça. Ouais, j'ai fait. Non, je peux dire nous, parce qu'en vrai, c'est tout le monde qui permet ça aussi, parce qu'en fait, une fois que la démo elle est faite, c'est le support qui prend le relais. Enfin, tu vois, nous, on travaille beaucoup aussi la qualité de notre service client. Et ouais, on a fait 52% de démos closées, ouais, en 3 ans.
C'était
mieux au début. Ouais. Tu vois, la première année, j'avais fait plus de 60%. Et en fait, avec l'évolution de la volumétrie, intrinsèquement, tu diminues la qualité.
La qualité de ta démo?
Non, j'espère pas. Mais la qualité des leads que tu
as. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. En fait, parce que, comme on l'a dit dans un autre épisode, le nombre de clients a explosé en l'espace d'un an et demi, c'est ça? Vous êtes passé de 100 000 à combien? 400, c'est ça?
Ouais, exactement. Ouais.
Et donc, forcément, derrière, c'était le nombre de leads en face est encore multiplié. Donc, ouais. Ok.
Donc voilà un peu le topo sur le sujet. Ouais, ça fait 52%. Ouais.
Génial. Et qu'est-ce que peut-être ça serait quoi tes derniers recos là-dessus, si tu en as, sur tu vois sur le process en lui-même et peut-être sur les bonnes pratiques que t'en retiens aujourd'hui.
Ouais. Moi, je pense que, tu vois, le Jean-Claude Convenant, tel que beaucoup de gens connaissent ce personnage, n'existe plus et ne doit plus exister en entreprise. Tu vois, ce commercial qui est là pour te vendre coûte que coûte parce qu'il est objectivé sur le nombre de ventes, ça doit plus exister, en fait. Aujourd'hui, si tu veux apporter de la valeur dans ton process commercial, il faut que tu aies une personne qui soit capable de te conseiller sur ta stratégie. Et c'est pour ça que je pense que ce que j'ai bien fait chez Crisp, c'est aussi cet aspect valeur, tu vois, et pas vente coûte que coûte. À mon sens, c'est essentiel parce qu'on arrive dans un monde de plus en plus technologique avec, tu vois, des gens qui potentiellement aussi comprennent peut-être de moins en moins l'ensemble des enjeux et des outils. Et donc, si en plus d'un logiciel, tu apportes une couche expertise, conseil qui fait vraiment la valeur ajoutée d'une entreprise, hein, et ben les gens peuvent sentir ça et du coup faire pencher la balance de ce côté, ouais.
Ok.
Tu vois, on gagne des deals aujourd'hui et des deals intéressants face à des concurrents parce que je pense qu'on ajoute une touche humaine et un côté d'expertise aussi que peut-être les autres n'ont pas.
Et j'avais dit que c'était ma dernière question, mais au final, non. Parce que aujourd'hui, donc, tu recrutes un directeur commercial. Enfin, vous recrutez chez Crisp un directeur commercial.
Tout à fait.
qu'est-ce qui fait que bah il y a cet investissement qui est réalisé. C'est avant tout pour te dégager du temps, c'est pour aller chercher des plus gros comptes. Enfin, c'est quoi un peu le rationnel derrière ça?
Ouais, bah il y a ça en fait. Tu vois, c'est que moi ça va faire presque 4 ans que je fais des démos chez Crisp et que moi j'ai fait le tour. et que même si j'aime bien ça, il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Et c'est toujours ce qu'on a pour ambition de faire chez Crisp, c'est de recruter des gens qui sont meilleurs que nous sur des sujets spécifiques. Tu vois, quand Baptiste m'a recruté, c'est parce qu'en fait, j'étais meilleur que lui sur la partie commerciale et meilleur que lui sur la partie marketing. Et moi, aujourd'hui, j'arrive à mes limites sur la partie enterprise parce qu'en fait, on commence petit à petit à monter dans le marché, à aller chercher des plus gros deals. Et en fait, ça, c'est des types de ventes qui sont complètement différentes, beaucoup plus longues, avec beaucoup plus de parties prenantes. Et c'est des sujets que, en fait, moi, je maîtrise pas. Tu vois, et en fait, dans l'évolution d'une entreprise, il faut savoir aussi se dire à un moment que bah, t'es plus la bonne personne pour faire les choses. Donc l'enjeu c'est ça, c'est d'aller chercher une personne et on l'a trouvé du coup, donc ça c'est super cool, qui a une bonne expertise de vente B2B SaaS, qui a un bon réseau de partenaires aussi, parce qu'en fait quand tu fais de l'enterprise, il faut avoir les bons partenaires si tu veux pas te mettre à vendre du service en plus. Et nous c'est pas notre volonté chez Crisp, on veut rester une entreprise qui fait du produit et qui fait du bon produit. Si on se met à vendre du temps homme pour aller faire de la personnalisation, bah, en fait, on n'a plus de temps pour aller faire du logiciel. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de complémenter le développement commercial avec une stratégie de partenariat. Parce qu'on a besoin d'agences clés dans chaque pays pour aller accompagner nos clients dans la meilleure utilisation possible de notre logiciel et de nos API et de nos SDK mobiles et de tout ça, quoi. Donc ça c'est le premier enjeu. Et le second enjeu, oui en effet, c'est de moi me laisser plus de temps pour me concentrer vraiment sur l'aspect croissance, marketing, analyse de données. Tu vois, on parlait tout à l'heure de l'enjeu de la création d'un outil de gestion de stockage de données. Ça typiquement c'est un travail que j'ai commencé, mais en fait là aujourd'hui je jongle entre ça. Entre la partie commerciale, entre la partie marketing, du produit aussi en ce moment. Donc tu vois, ça fait beaucoup de choses à la fin de la journée. Et aujourd'hui, on a suffisamment de revenus pour pouvoir justement recruter une personne, mais on a aussi suffisamment de flux. Tu vois, parce qu'en fait, si tu recrutes une personne qui fait du commerce seulement, mais qui a 2 démos par semaine, bon, c'est un peu ennuyant. Aujourd'hui, on a suffisamment de flux pour aller, tu vois, vraiment scaler le truc. Et demain, peut-être en effet, recruter un SDR ou un BDR qui va aller faire toute la partie closing, quoi.
Ok, ouais. Donc cette nouvelle personne ne va pas s'ennuyer trop.
Non, je pense pas. J'espère pas. Sinon, ce serait pas cool.
Ouais. Non, mais je pense pas vu comment t'arrives à générer des leads pour Crisp depuis que t'es arrivé, donc voilà, je m'en fais pas. écoute, merci beaucoup Antoine, c'était très cool à nouveau d'avoir ton feedback, tes process sur la lead gen et tu vois, que ce soit sur la partie marketing ou commerciale, c'est toujours hyper instructif. On peut te contacter sur LinkedIn ou sur Twitter, hein, c'est ça, t'es très disponible si jamais les gens veulent te rencontrer.
Ouais, avec grand plaisir, ouais. N'hésitez pas. Du coup, ouais, faire de 0 à 1 sur une équipe commerciale, bah voilà, c'est un truc que j'ai fait. Donc avec plaisir pour parler de ces sujets-là à toutes celles et ceux qui se posent des questions. Hein.
Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Antoine et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.
Ciao, ciao.
SaaS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu 1 ou 2 conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, SECLET. Encore merci et à la semaine prochaine.